إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication du livre اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم du Cheikh Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, et avec les commentaires de Cheikh Saleh al-Fawzan qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala kitab iqtida al-sirat al-mustaqim. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit à la partie 64: قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما عليه الأخرى. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا. وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بهما منقطع عن الله، وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله عز وجل. Donc Ibn Taymiyyah, il dit, regardez le verset 113 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, les juifs disent, les chrétiens ne se tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne sont sur rien. Allah subhanahu wa ta'ala a informé que chacune de ces deux nations, yani, renie ce que l'autre possède. Et tu trouves que parmi les musulmans, certains qui prétendent à la science du fiqh, lorsqu'ils voient par exemple des gens qui prétendent au soufisme ou à l'adoration, ils les voient et les considèrent comme étant sur rien. Ils considèrent ces gens-là uniquement comme étant des égarés, ignorants. Tandis que, c'est-à-dire, ils croient qu'il n'y a rien de ce qu'ils ont, de leur science ou de leur guidance qui se tient sur quoi que ce soit. Et tu vois la même chose de la part des gens qui prétendent au soufisme ou qui prétendent faire partie des gens qui s'abandonne à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, ils considèrent que la charia pour eux et la science c'est rien, et ils considèrent que de s'accrocher à la science et à la charia c'est quelque chose qui te coupe d'Allah, hein, et que ceux qui s'accrochent à la charia, eh bien ils ont rien de qu'est-ce qui peut leur profiter auprès d'Allah. Donc ça c'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pour montrer que parmi les musulmans, il y en a qui imitent les juifs et les chrétiens dans cette attitude-là qu'ils ont. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Al-Maqsoud fi qawlihi ta'ala, wa qalat il-Yahoud, laysat il-Nasara ala shay'in, wa qalat il-Nasara laysat il-Yahoud ala shay'in, al-Inkar. Lianna kullam min al-Ta'ifatain, yajhadu ma'inda al-Ukhra min al-Haqqi, wa thalika min ajli an yantasira li-Nafsihi, haythu ya'taqid annahu هو وحده على الحق وأن غيره على الباطل، وهذه مصادرة للحق لا تجوز، بل الواجب الاعتراف بما عند الآخر من الحق وبيان ما عنده من الباطل، وهذا هو الإنصاف والعدل. فإذا فإذا ما اختلف المرء مع آخر فالواجب أن نقبل ما عند الآخر من الحق. Donc c'est ça que le cheikh explique. Il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par le verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que il dit ce qui signifie les juifs disent les chrétiens ne se tiennent sur rien et les chrétiens disent les juifs ne se tiennent sur rien. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le fait de nier, hein, le fait de nier. Et ça veut dire que chacun des deux groupes nie complètement ce que l'autre groupe possède, même de qu'est-ce qu'ils ont de vrai. C'est-à-dire que chez les juifs, il y a des choses de la vérité. Même s'il y a des choses qu'ils ont qui est faux, mais il y a des parties qu'ils ont qui sont vraies. Et chez les chrétiens, il y a des choses aussi qui font partie de la vérité. Donc, le cheikh, il dit, chacun des deux groupes nie complètement ce que l'autre a, même si c'est la vérité. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que chacun veut défendre sa propre personne du fait que chacun croit que c'est lui seul qui est sur la vérité et que l'autre est sur le faux. Et ça, le fait d'agir comme ça, c'est comme si tu essaies de prétendre que c'est toi seul qui est de t'approprier la vérité. C'est de t'approprier à toi seul la vérité. Et il dit ça, c'est pas permis. L'obligation pour le musulman, c'est de reconnaître ce qui est la vérité et ce que l'autre possède de la vérité aussi. Et d'expliquer, de clarifier ce que l'autre a comme fausseté. C'est qu'est-ce qu'il a comme égarement et comme fausseté. Et il dit, c'est ça qui est la justice et c'est ça qui est l'honnêteté et la justice. Et il dit, l'obligation donc, c'est de reconnaître ce que l'autre possède comme vérité et d'expliquer ce qu'il a comme fausseté. Et ça, c'est la justice et l'honnêteté. Donc, si quelqu'un a une contradiction, une divergence avec quelqu'un d'autre, l'obligation, c'est d'accepter ce que l'autre a comme vérité. Il dit, وبعض هذه الأمة من المتفقهة والمتصوفة شابه أهل الكتاب في نفي الحق عن مخالفيهم فكل يتهم الآخر بأنه على باطل وأن الحق معه فالمتصوفة يرون المتفقهة ليس عندهم عبادة وليس عندهم زهد وليس على شيء والمتفقهة يرون أن الصوفية ضلال وليس عندهم حق وهذا ظلم وجور من كلا الطائفتين من كلا نعم وعليكم السلام. On vient juste de commencer. Ok, on t'attend. Dépêche-toi, on arrive là. وعليكم السلام. نعم. Mais oui, non, mais 15 minutes, il a dit, hein? Bon, écoute, je vais traduire ce paragraphe, puis après on va arrêter, juste en lui donner comme 10 minutes, puis après on va continuer. Donc, le cheikh, il dit, ok. Je vais relire le paragraphe en arabe avant, parce que je pense que je ne me rappelle plus où j'étais arrêté. Donc, il dit, بَعْضُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْمُتَفَقِّهَا وَالْمُتَصَوِّفَ شابه أهل الكتاب في نفي الحق عن مخالفيهم فكل يتهم الآخر بأنه على باطل وأن الحق معه فالمتصوفة يرون المتفقهة ليس عندهم عبادة وليس عندهم زهد وليسوا على شيء والمتفقهة يرون أن الصوفية ضلال وليس عندهم حق وهذا ظلم وجور من كلا الطائفتين فالواجب الإنصاف مع الخصوم ومخالفيهم. Donc le cheikh il dit certains de cette umma ils ont les caractéristiques des gens du livre qu'on a mentionné. Donc ceux qui parmi les musulmans imitent ou essaient de chercher la science du fiqh, de même que chez les soufis, chez les gens qui s'apparentent au soufisme, il y a des ressemblances chez eux aux gens du livre, dans cette attitude-là. Dans le fait de nier ce que l'autre possède parmi ceux avec qui ils ont des divergences. Donc chacun accuse l'autre d'être sur la fausseté. et que la vérité est avec lui. Donc il dit, les soufis par exemple, ils voient que les gens qui étudient le fiqh, ils n'ont pas d'adoration, ils n'adorent pas beaucoup Allah, ils se détachent pas de la dunya, hein, et ils prétendent qu'eux ils sont sur rien. Disent les soufis disent que ceux qui étudient le fiqh, ils sont sur rien, tandis que les gens qui étudient le fiqh, ils considèrent que les soufis sont dans l'égarement et qu'ils n'ont rien de la vérité. Et le cheikh il dit, ça c'est de l'injustice pour les deux côtés, parce que qu'est-ce qui est obligatoire, c'est d'être juste, hein, d'être juste avec les gens avec qui on a une divergence et contre qui on a un conflit. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à qu'est-ce que le cheikh il dit ici, c'est-à-dire que quand tu vois deux groupes comme ça qui parmi les musulmans ont des divergences entre eux, puis qu'il y a un groupe qui prétend que l'autre est sur l'égarement, l'obligation c'est de reconnaître qu'est-ce qui est vrai et d'accepter la vérité. Et l'autre groupe, il doit également accepter la vérité que l'autre possède, de qu'est-ce que l'autre possède. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit se taire sur le faux que l'autre groupe possède, puis dire que bon, du moment que ils ont de la vérité, ça y est, c'est bon. Non, il faut réfuter le faux. Puis en même temps aussi, ça ne veut pas dire, comme certains, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ça, qu'on doit prendre le bien puis laisser le faux. Comme certains, il y a des gens qui disent ça, des fois ils disent, on doit prendre le bien de tout le monde, donc si quelqu'un il a des erreurs, tu prends le bien puis tu laisses les erreurs. Surtout si tu parles de groupes d'égarement ou des gens de bid'ah, si tu dis ça, comme les ulama ont dit, ça c'est une façon de t'égarer facilement. Puisque tu ne peux pas savoir nécessairement où sont les erreurs et où est la vérité dans les paroles de ces gens-là parfois. À moins que tu sois quelqu'un qui a vraiment étudié avec les ulama, qui connaît bien les bases de la aqidah, qui a une compréhension solide. Là tu peux distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux. Et là, dans ce cas-là, tu peux le réfuter. Mais si tu n'as pas assez de science et que tu vas lire les livres des gens de bid'ah et des gens d'égarement, puis tu dis, je vais prendre juste le vrai puis je vais laisser le faux, ben tu peux facilement t'égarer parce que tu n'as pas les outils nécessaires puis la connaissance nécessaire pour distinguer entre les deux. Donc ça, c'est, il ne faut pas que ça devienne une choubha. Mais en même temps, même si par exemple tu vas dire, bon, je ne vais pas prendre de ces gens-là, ça ne veut pas dire que tu nies ce qu'ils ont de la vérité. Tu ne vas pas dire, par exemple, « Ah, ces gens-là, ils n'ont rien de la vérité. » Non, ils ont des parties de la vérité. Même les juifs, ils ont de la vérité. Même les chrétiens, ils ont de la vérité. Même les soufis, ils ont des choses de vérité. Même les koufars. Donc, si les koufars, ils ont des choses vraies, les musulmans qui sont dans les sectes, dans les garments, eux aussi, ils ont du vrai. Mais le problème, c'est pas le vrai qu'ils ont. Le danger, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme fausseté et comme égarement. Et donc, nous, lorsqu'on cherche la science, on doit la chercher chez les gens de la vérité, chez les gens de la sunna, chez les gens qui s'accrochent à la vérité. Et éviter les gens qui ont des choubouhades ou qui ont des déviations pour éviter justement d'être pris dans ces déviations-là puis de s'égarer nous-mêmes. Donc ça, c'est un point assez important, puis il faut clarifier bien comme il faut ces choses-là. Naam. Donc on va prendre une petite pause ici pour attendre que le frère arrive, puis on continue. S'il arrive, il arrive, tant pis. Non, mais d'habitude, il vient, même, toujours. C'est-à-dire, d'habitude, il est là à l'heure. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Tayyib. Ok, dans la partie numéro 65, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: والصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا فهو باطل. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il explique, il dit, qu'est-ce qui est correct de dire, c'est que qu'est-ce qui a été ramené et qui est en accord avec le Coran et la Sunna de ce groupe-là et de ce groupe-là, des deux groupes, les gens qui étudient le fiqh et les gens qui suivent le tasawwuf, s'ils ont ramené qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, on dit ça c'est le haqq. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna? On dit ça c'est le batil. Il y en a des deux côtés. Hein? C'est ça l'attitude qu'on doit adopter. Et il dit يعني أن الفيصل هو موافقة الكتاب والسنة فيؤخذ مما وافق الحق ويرد ما خالف عند أي أحد هذا هو الواجب. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلفنا فلا نبقى على اختلافنا ونقول نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بل علينا أن نعرض ما معنا على كتاب الله ونعرض أقوالنا ومذاهبنا وآراءنا على الكتاب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافق الحق مما معنا أو مما مع مخالفينا قبلناه وما خالف الحق مما معنا أو مما مع مخالفينا رددناه. Hada huwa al-adl wal-insaf. Donc le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique le point 65, il dit, c'est-à-dire que le point qui tranche dans cette question-là, c'est qu'on doit être en accord avec le Coran et la Sunna, et qu'on doit accepter ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Donc qu'est-ce qui est en accord avec la vérité, on le prend. Et qu'est-ce qui est en contradiction avec la vérité, on le rejette, peu importe de qui ça vient. Hein? Et ça, c'est qu'est-ce qui est obligatoire. Et on doit tout ramener au livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans surat An-Nisa, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc il dit, si on diverge, hein? On ne doit pas rester sur la divergence. Le verset 59 dans Sourate An-Nisa. Et si on dit, après le verset, le cheikh il explique. Il dit, si on a divergé entre nous, on ne doit pas rester sur notre divergence. Et dire, on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse hein, les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge. Ça, ce n'est pas l'attitude à adopter. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, parmi les Hizbiyim, comme les Ikhwan, ça c'est leur slogan, ça, de dire, on a des divergences entre nous, mais c'est pas grave. On travaille sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis les choses sur lesquelles on diverge, on s'excuse. Non, ça c'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, comme le cheikh il explique, c'est de ramener nos divergences à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Il dit, donc, on présente toutes nos positions, nos opinions, nos paroles, hein, toutes nos idées, on les présente devant le Coran et la Sunna. Et on regarde qu'est-ce qui est en accord avec la vérité dans ces idées-là, dans ces positions-là, de ce qu'on a, nous, et de ce que nos opposants ont ramené aussi. Puis on accepte et on prend ce qui est de la vérité. Que ça vienne de nous ou de ceux qui sont en contradiction avec nous, si ce qu'on a ramené ou si ce que nos opposants ont ramené est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. Si ce qu'on a amené ou si ce que nos opposants ont amené est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on le rejette. Hein? Et c'est ça l'attitude que les musulmans doivent avoir et ils doivent être justes et honnêtes dans cette attitude-là. C'est pas comme les hizbiyin et les gens de bid'a hein, qui sont sur l'égarement, et la bid'a et la fausseté, puis qui disent ben on a des divergences entre nous, puis on doit laisser la divergence telle quelle. Toi sur ton opinion, moi j'ai mon opinion. Même si c'est contraire au Coran et à la Sunna, c'est pas grave, on s'excuse les uns les autres. Puis on continue sur notre égarement. Ça, c'est pas l'attitude. Ça, c'est pas l'attitude à avoir. Et c'est pour ça que les gens de bid'a, ou les gens qui ont des égarements, ou les gens qui ont des erreurs dans leur voie, ils doivent reconnaître qu'ils ont tort et se repentir de leurs égarements, quitter la bid'a pour qu'on puisse s'unir sur la vérité. Mais il y en a d'autres, non, ils ne veulent pas abandonner leur bid'a, ils veulent rester accrochés dessus. Et c'est ça qui fait que les musulmans restent dans leur division, parce qu'ils ne veulent pas se repentir de leurs erreurs. Ils veulent dire non, c'est pas grave, comme les koufars, c'est pas grave, on a des divergences, mais on doit tous s'excuser les uns les autres, puis on travaille ensemble. Donc tu les vois, les Ikhwan, ils travaillent avec les Rafida, ils travaillent avec les Soufis, ils travaillent avec les Shia, ils travaillent avec les Mu'tazila, ils travaillent avec toutes les gens de Bid'a, toutes les sectes, c'est pas grave, les Soufis et ainsi de suite. Shia, les Mu'tazila, les Aqlaniyoun, même les laïcs. Même les communistes, même les chrétiens, même les juifs. Et ça ne leur dérange pas. Ils disent ça, c'est des petites divergences. On diverge juste sur 5%. Et sur 95%, on est d'accord. Subhanallah. Le 5% dans lequel tu diverges avec les autres, tu dis c'est juste 5%, c'est la base de l'islam. Comment tu peux dire que c'est juste 5%? Est-ce que pour toi la base est pas importante? Et les choses qui sont, par exemple, des éléments qui découlent des fondements, qui sont des branches, qui ne sont pas des choses fondamentales, ça, tu les calcules comme si c'était ça le plus important. Il y a un problème. Quand ces gens-là ne comprennent pas ça, ça vient du fait qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la aqida de l'islam, puis c'est quoi les fondements de l'islam. Ok, maintenant on a terminé avec cette partie. Notre cheikh l'islam, Ibn Taymiyyah, il va commencer à parler de la ressemblance avec les autres parmi les kuffars, autres que les gens du livre. C'est-à-dire, par exemple, Faris ou Rum. Bon, le Rum, ça peut être calculé parmi ceux qu'on appelle les Romains, à l'époque de l'Empire romain, l'Empire de Rome. Même si à cette époque-là, les Romains étaient devenus déjà chrétiens. Mais on sait qu'à l'origine, les Romains, c'était des adorateurs d'idoles et de statues. Et Faris, c'est les Perses, c'était les Majus, les adorateurs du feu, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh? Il dit « وَأَمَّا مُشَابَهَةَ فَارِسْ وَالْرُومِ فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْآثَارِ الرُّومِيَّةِ قَوْلًا وَعَمَلًا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء فيه على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la ressemblance des Perses et des Romains, eh bien il y a des aspects des traces de limitation dans cette umma, il y a des traces de limitation des Romains dans la parole et dans les actions, et des traces de l'imitation des Perses dans la parole et dans les actions, ce qui n'échappe pas, ça n'échappe pas aux musulmans croyants qui a une connaissance de la religion de l'islam. Il ne nie pas et ça ne lui échappe pas. Il y a ce genre de choses qui se sont produites dans la Ummah. Il y a de ressemblance à ces peuples-là. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Dans son commentaire 66 à la page 132, il dit لَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ طَرَفًا مِنْ وُجُوبِ مُخَالَفَةِ الْمُسْلِمِينَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ انْتَقَلَ إِلَى بَيَانِ وُجُوبِ مُخَالَفَةِ مَنْ لَيْسَ عَنْدَهُمْ كِتَابٌ مِنَ الْفُرْسِ وَالرُّومِ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُخَالِفُوهُمْ وَلَا يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ لأنهم أهل كفر وضلال وجاهلية ومخالفة الفرس والروم تكون في العبادات والعادات لأن الله أغنانا بالإسلام عن كل أمة ومذهب وطائفة وطريقة فالأصل أن نستغني بهذا الدين عما سواه لأن فيه الخير والحق والعدل والهدى وهو ما ليس عند الأمم الأخرى لا سيما فارس والروم فهم ليسوا بأهل كتاب وإنما يعيشون على الجهل والضلال Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit que lorsque Cheikh Ibn Taymiyyah a parlé des éléments qui ont rapport avec l'obligation de contredire les peuples juifs et les peuples chrétiens, que qui sont les gens du livre, que les musulmans doivent ne pas les imiter, il passe maintenant à l'explication de l'obligation de contredire également ceux parmi les koufars et les mouchriquins qui n'ont pas reçu de livre, parmi les Perses et parmi les Romains comme exemple. Et il dit que la base chez les musulmans, c'est qu'on doit contredire ces gens-là et ne pas leur ressembler, parce que ce sont des gens qui sont sur le kufr et sur l'égarement et sur la djahiliya. Et la contradiction qu'on doit avoir envers les Perses et les Romains, ça doit être dans les adorations et dans les affaires ordinaires de la vie, les habitudes de la vie, les traditions, les coutumes et autres. Pourquoi? Parce que Allah nous a donné dans l'islam ce qui nous suffit. Hein? Ce qui nous suffit du fait qu'on n'a pas à imiter quiconque, peu importe la nation, peu importe la voie, peu importe la religion, peu importe le groupe, peu importe le chemin qu'ils suivent. Yani, la base, c'est qu'on doit se passer totalement de ce que ces gens-là ont, ou de ce que tous les autres ont, qui sont en dehors de cette religion. Parce que dans cette religion, dans l'islam, il y a le bien, il y a la vérité, la justice et la guidance. Et ça, ces éléments-là, ils ne sont pas présents chez les autres peuples. Et en particulier les Perses et les Romains qui n'ont pas reçu de livre. Hein? Ils ne font que vivre dans l'ignorance et dans l'égarement. Donc d'imiter les Perses et les Romains ou les peuples semblables, c'est encore plus grave que d'imiter les gens du livre. Donc Cheikh, il explique, Cheikh Ibn Taymiyyah, elle continue. Il dit au passage 67, « وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت فيه الأمة مما تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضالين وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورا لصاحبه إما لاجتهاد أخطأ فيه وإما لحسنات محت السيئات أو غير ذلك وإنما الغرض أن تتبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم وأن ينفتح لك الباب إلى معرفة الانحراف لتحذره. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah? Il dit, le but ici, ce n'est pas de détailler dans toutes ces affaires dans lesquelles la Ummah sont tombées dans la ressemblance des gens qui ont encouru la colère d'Allah ou bien de ceux qui se sont égarés. Il dit, même si certaines de ces choses-là dans lesquelles les musulmans sont tombés, certains d'entre les musulmans seront pardonnés pour avoir imité ces peuples-là dans certaines choses. Soit parce qu'il avait fait une ijtihad qui était erronée ou qui était incorrecte, donc il s'est trompé dans son ijtihad puis il est tombé dans l'imitation des juifs et des chrétiens, ou bien il sera pardonné parce que il avait fait d'autres bonnes actions qui sont venues par la suite effacer le mal de ce qu'il avait fait, ou bien pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'il va être pardonné pour d'autres raisons que ça. Mais le but de parler de ça maintenant, c'est juste de mentionner la nécessité que le serviteur a de chercher la guidance du droit chemin et que les portes de la connaissance de la déviation soient ouvertes pour toi, pour que tu puisses éviter de tomber dans la ressemblance de ces peuples-là. Ok? Donc, en voulant dire que Ibn Taymiyyah a dit, on ne veut pas détailler chaque petit détail, on veut juste expliquer des bases, des règles que les gens vont être capables de discerner par la suite, par eux-mêmes, qu'est-ce qui est une imitation et qu'est-ce qui est un égarement du droit chemin. Et même si certains qui parmi les musulmans font ça, certains peuvent être pardonnés pour des raisons quelconques, et d'autres d'autres, peut-être qu'eux, ils ne seront pas pardonnés. Ça dépend des cas et ça dépend des personnes, selon la situation. Et là, Cheikh Al-Fawzan, il explique en détail qu'est-ce que ça veut dire. Donc, il dit, « يقول الشيخ ليس الغرض مما ذكرنا استقصاء استقصاء كل ما عليه أهل الضلال والمغضوب عليهم والضلون من الانحرافات هذا لا يستقصى فهو كثير ولكن الغرض من هذا الكتاب هو رسم القاعدة والخطة التي يسير عليها المؤمن في حياته حتى يكون على الصراط المستقيم ويكون مجانبا للصراط المغضوب عليهم والضالين. Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan? Il dit, Ibn Taymiyyah, il dit que le but ici, c'est pas de d'énumérer tout ce que les gens du livre, parmi les gens qui ont couru la colère d'Allah ou qui se sont égarés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, de tout ce qu'ils ont comme déviation. Parce que si tu veux mentionner tout et énumérer tout ce qu'ils ont comme égarement, ça c'est beaucoup. Et on n'arrivera pas à le faire. Mais le but de ce livre, c'est d'amener à faire comprendre la règle générale, puis la ligne que le croyant doit suivre dans sa vie pour qu'il soit sur le droit chemin et pour qu'il s'écarte du chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah et de ceux qui se sont égarés. Donc de ramener une règle pour comprendre de façon générale comment suivre le droit chemin. Et donc c'est ça qui est important. Et dans cette voie-là, quand tu dis à des musulmans par exemple, « Ya akhi, imiter les juifs et les chrétiens » ou imiter les koufars de façon générale, c'est haram. Et il y en a beaucoup de musulmans qui ont du mal à accepter ça. Comme Ibn Taymiyyah l'a dit au début du livre, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, il y en a certains d'entre eux, tu leur dis ça, ils disent « Ah mais non, mais comment ça, on n'a pas le droit de les imiter ?» Puis il y en a même parmi les gens de l'égarement, comme les Ikhwan et d'autres, comme je me rappelle combien de fois j'ai entendu des exemples de Tariq Ramadan qui se moquent des salafis, parce que les salafis disent qu'on n'a pas le droit d'imiter les koufars. Donc il dit par exemple, il y en a des salafis qui disent qu'il ne faut pas imiter les koufars, alors dans ce cas-là, pourquoi tu utilises l'électricité, puis pourquoi tu utilises les ordinateurs, puis pourquoi tu utilises ci et ça. Ou bien une fois même dans une de ces conférences, pour se moquer des salafis, tu vois, il fait des gens de, comme on dit, des gens de parodie ou bien des essaie de faire des caricatures de qu'est-ce qu'il considère lui comme étant être l'exemple d'un salafi. Donc il dit, il y avait des gens qui étaient dans une voiture, puis ils sont arrivés à un feu rouge, puis là l'autre a dit, ah, il n'y a pas de voiture, donc moi je passe quand même. Et là, Tariq Ramadan, il a dit, mais non, il ne faut pas passer parce que c'est interdit, il faut rester au feu rouge. Et là, il a dit, je m'en fous, ça c'est les koufars qui ont fait ça. Donc il a traversé le feu rouge, puis là-bas, il y a des caméras, tu vois, qui prennent des photos de la plaque de la voiture. Donc là, ils ont pris la photo, puis ils lui ont envoyé la facture. Pas la facture, mais la contravention. Donc c'est pour dire que à cause du fait que lui il disait, ah ça c'est les koufars, il ne faut pas écouter dans ces choses là donc ça veut dire à cause de ça, c'est comme pour se moquer des salafis. Regardez, les salafis disent qu'il ne faut pas imiter les koufars ou suivre les koufars dans ces choses là et regardez où ce que ça les amène. Et bien entendu, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'il a donné comme exemple? C'est totalement ridicule. Il n'y a aucun salafi qui considère les choses de cette façon-là ou qui voit les choses de la façon dont lui l'a montré. Le fait d'utiliser la technologie, si c'est dans le halal et qu'on l'utilise de façon halal et que c'est quelque chose qui est bon, il n'y a aucun savant salafi qui interdit de l'utiliser. Alhamdoulilah. Et même si certains savants salafis l'auraient interdit, en mentionnant des arguments et en faisant un ijtihad, eh bien, il y a d'autres savants salafis, alhamdoulilah, qui ont clarifié et répondu à ces questions-là. Donc, on prend de ce que les koufars ont amené, comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué, on prend des koufars de ce qu'ils ont amené, des choses de la dunya, qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est bon, et on l'utilise. Mais ça ne justifie pas qu'on doit prendre n'importe quoi et tout de ce qui vient des kuffars. Comme il y en a par exemple qui vont mélanger, comme justement Tariq Ramadan c'est le meilleur là-dedans, mélanger les affaires qui viennent de la dunya puis les affaires qui ont rapport avec la religion ou qui sont reliées à des choses sur lesquelles il y a des textes qui sont révélés. Hein, comme par exemple, il va dire, bon, puisqu'on a le droit d'utiliser les choses technologiques comme l'électricité, les ordinateurs, les choses de ce genre, et que ça vient des koufars, donc ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser tout, sans exception, de ce qui vient des koufars. Donc il va comparer l'utilisation de l'ordinateur à l'utilisation de la démocratie et l'utilisation du vote et des élections. Alors qu'on voit, tout le monde peut savoir clairement qu'il y a une différence entre les élections et la démocratie, qui est une idéologie, qui est un système basé sur le kufr, et il y en a l'utilisation des ordinateurs et des moyens techniques qui sont yani, en accord ou qui sont en accord avec les principes de l'islam et qui sont pas interdits en soi. Donc de mélanger entre les choses de la dunya et les choses de l'au-delà. Comme par exemple l'exemple de Salman al-Farisi qui avait par exemple mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Al-Khandaq, Al-Ahzab. Il a mentionné qu'en Perse, les gens ils creusaient des tranchées. Donc ça, c'est une méthode que les Perses utilisaient. Le prophète Sosem l'a utilisé parce qu'il a trouvé que c'était bon. Donc eux, ils utilisent ça comme un exemple pour dire « Ah, ben ça, ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser la démocratie parce que ça vient des koufars, mais c'est bon quand même. » Alors qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Même si ça vient des koufars, si c'est bon, oui, on peut l'utiliser, mais si c'est pas bon... dans le sens que c'est en contradiction avec des fondements de la croyance et de la pratique islamique et qu'il y a beaucoup de méfaits dedans, plus que de bien, et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de l'utiliser et de l'employer. Mais eux, ils jugent seulement de façon matérielle et non pas ni de façon religieuse les choses. Donc ça, c'était juste une parenthèse en passant, yani à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Naam. Oui. Donc, le but, c'est ça. Après, il dit, ثم نبه رحمه الله إلى التشبه إلى أن التشبه بالمغضوب عليهم والضالين والأميين وأهل الجاهلية وفارس والروم قد يكون مغفورا له إما لاجتهاده لأنه يعني لا يتعمد المشابهة فظن أن هذا شيء مباح ولا حرج فيه ولو علم ما فيه من الشر لتجنبه فهذا يغفر له خطأه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ثم لما تبين له أنه خطأ تركه فإن الله يعني يغفر له ما سبق. Donc le cheikh il dit, puis ensuite Ibn Taymiyyah il a mentionné que la ressemblance avec les mardoub alayhim, c'est-à-dire ceux qui ont encouru la colère d'Allah, de même que les égarés parmi les ummiyin, les chrétiens et les ummiyin, c'est-à-dire les arabes qui n'avaient pas reçu de livre, ou bien les gens de la jahiliya, wa alaykum salam wa rahmatullah, les gens de la jahiliya, c'est-à-dire les gens qui vivent dans l'ignorance pré-islamique, ou bien la Perse et les Romains, ça se peut que certains d'entre eux soient pardonnés pour avoir imité dans ces choses-là ou d'avoir imité ces gens-là, soit parce que il a fait un ijtihad. Il a fait un ijtihad, il a fait un effort pour trouver la vérité et il est tombé dans la ressemblance de ces gens-là sans le vouloir. Hein? C'est-à-dire sans que ce soit prémédité, il a pensé que c'était quelque chose de permis, de correct, puis il a cru que c'était permis. Hein? Et s'il aurait su qu'est-ce qu'il y avait dedans comme mal, il se serait écarté de cette ressemblance-là. Mais il a fait par erreur. Donc celui-là, il sera pardonné de son erreur à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne mettra pas sur cette umma l'erreur, il ne va pas tenir pour compte celui qui dans cette umma fait une erreur ou agit par a pas fait quelque chose par oubli, ou bien quelque chose qu'il a fait mais qu'il a été sous l'effet de la contrainte. Il a fait parce qu'il a été contraint, donc ceux-là, ils ne seront pas punis hein, pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc l'erreur est excusée. Hein. Et le cheikh, il dit, puis ensuite, on comprend donc qu'une fois qu'on lui a expliqué que qu'est-ce qu'il a fait, c'était une erreur, il revient à la vérité. Alors, quand il revient à la vérité, eh bien, cette personne-là sera pardonnée pour qu'est-ce qu'elle a fait auparavant. Il dit أو يكون عالما بأنه خطأ وأنه لا يجوز ومع ذلك يفعله فيكون ارتكب معصية قد يغفر الله له هذه المعصية لما له من الحسنات العظيمة. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات. Donc le cheikh il dit, ou bien ça se peut que un savant, non ça, non, qu'est-ce que ça veut dire, c'est que il dit, ou bien ça se peut que la personne sache que qu'est-ce qu'elle a fait c'était une erreur et que c'est pas permis de le faire, mais elle l'a fait quand même. Donc elle a commis un péché en imitant les koufars, en imitant les juifs et les chrétiens ou les autres peuples parmi les koufars. Donc elle l'a fait consciemment, volontairement. Donc elle a commis un péché, ainsi que c'est interdit. Mais c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce péché-là, parce qu'elle a fait des hasanat, des bonnes actions qui sont très grandes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, établit la salat aux deux extrémités de la journée, et une partie proche de la nuit, et les bonnes œuvres effacent les péchés, les mauvaises. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Donc, il dit le cheikh, فَالصَّغَائِرُ تُكَفَّرُ بِأُمُورٍ مِنْهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ إن الذين يجتنبون كبائر الإثم. Non, c'est un verset, mais le verset qu'il cite ici, le cheikh, c'est le verset 31 dans Sourate An-Nisa qui dit إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ومنها أداء الفرائض فإن أداء الفرائض يكفر الصغائر كما في هذه الآية الكريمة وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. Donc le cheikh il dit que les petits péchés que quelqu'un fait peuvent être expiés par des choses. Et parmi ces choses, le fait de s'écarter des grands péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31, dans Sourate An-Nisa, si vous vous écartez des grands péchés, de ce qu'on vous a interdit, nous vous effacerons, nous vous pardonnerons yani vos péchés. C'est-à-dire, l'exemple de l'application des obligations. Des obligations. Lorsque tu appliques les obligations, ça efface les petits péchés. Il dit, l'exemple de ce verset-là est expliqué dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, les cinq prières que tu fais, et d'un vendredi à l'autre, et d'un ramadan à l'autre, eh bien, c'est une expiation pour qu'est-ce qu'il y a entre les deux, pour qu'est-ce qui a été fait comme péché entre les deux. Et il dit, à la fin du hadith, tant que tu t'es écarté des grands péchés. Non, après le cheikh, il dit, كَمَا جَاءَ أَنَّ الْحَجْ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الظُّنُوبِ وَأَنَّ مَنْ حَجَّ ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Donc le cheikh il dit de la même manière que le hajj il efface ce qui était fait auparavant, yani ce que tu as fait comme péché avant le hajj, il est effacé. Et il dit celui qui fait le hajj sans commettre de péché, sans faire de perversité, il reviendra de ce hajj comme le jour yani, dans lequel sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire qu'il revient yani, avec une page blanche, hein, comme s'il n'avait jamais commis de péché. Na'am. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il continue et il explique à ce sujet-là. Il dit إن ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. Donc dans le passage numéro 68, Cheikh al-Islam il dit, et le droit chemin, c'est des choses aussi qui sont intérieures, des choses qui sont cachées, intérieures, dans le cœur, soit des croyances ou des volontés, hein, des désirs, des volontés, des choses comme ça. Et il dit, ou bien ça peut aussi être des choses apparentes, comme des paroles et des actions. Et c'est possible que ce soit des choses qui sont reliées aux adorations, comme aussi c'est possible que ce soit des choses qui sont reliées aux habitudes et aux traditions, dans la façon de manger, hein, dans la nourriture, dans les vêtements, dans le mariage, dans les habitations, dans les rassemblements, dans les séparations, dans le voyage, dans la résidence, quand on monte sur une monture ou un moyen de transport quelconque, ou d'autres choses. Donc ça touche à tout ça. Et toutes les affaires qui n'ont pas avec le droit chemin, ça peut avoir un lien avec toutes ces choses-là. Soit que c'est intérieur, dans le cœur, ou extérieur, ou soit que ça fait partie des adorations, ou bien ça fait partie des choses ordinaires de la vie. Donc dans toutes ces choses-là, il y a un lien. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit « قوله إن الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الدين وهذا الدين فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. » Donc le cheikh il commence, Cheikh Al-Fawzan, puis il dit le droit chemin c'est tout ce qui a été ramené par le prophète صلى الله عليه وسلم qui fait partie de cette religion. Et parmi les choses qui font partie de cette religion, il y a les actions apparentes et il y a les actions intérieures. Et il dit أَمَّا الْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ فَهِيَ مَا يَكُونُ فِي الْقُلُوبِ مِنَ الْاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ وَالْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ وَالْخَشْيَةُ مِنْهُ وَمَحَبَّةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهَذِهِ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ أو يكون ظاهرا على اللسان وذلك بالكلام الطيب والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام الطيب مع الناس أو يكون بالجوارح كالصلاة والصيام والجهاد في سبيل الله أو يكون بالأموال كالزكاة والصدقات والصدقات التطوعية والتبرعات الخيرية فإن هذا الدين شامل ولله الحمد لكل خصال الخير من واجب ومستحب ومن عمل ظاهر وباطن. Donc le cheikh il dit, yani, parmi les exemples d'actions qui sont intérieures, il y a les actions du cœur, comme par exemple les choses qui sont dans le cœur, la bonne croyance, la foi sincère, la crainte d'Allah, hein, le fait d'avoir peur d'Allah, de lui désobéir, hein, l'amour d'Allah, tout ça c'est des actions du cœur. Ou bien ça peut également faire partie des choses il y en a qui sont apparentes sur la langue, hein, comme par exemple la bonne parole, le rappel d'Allah, la récitation du Coran, l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, la bonne parole avec les gens, hein, ou bien ça peut faire partie des actions du corps, comme la salat, le jeûne, le jihad fi sabilillah, ou bien le fait de donner la zakat, ou bien de faire des sadaqat, des dons de charité volontaires, ou at-tabarru'at, hein, tabarru'at al-khayriya, les choses que tu donnes, yani, comme au monde, comme charité, ou comme aide, hein, les dons que tu fais pour le bien. Donc tout ça, c'est des choses qui font partie de la religion, hein, complète d'Allah, et par la grâce d'Allah, pour chaque caractéristiques de bien que tu fais, que ce soit des choses obligatoires ou recommandées, ou que ce soit des actions qui sont apparentes ou cachées. Donc le cheikh dit ensuite, قَوْلُهُ قَدْ تَكُونُ عِبَادَاتٍ وَقَدْ تَكُونُ عَدَاتٍ. Ça c'est un point important. Il dit, ça se peut que les choses dans lesquelles tu vas imiter les kuffars, qui font dans les choses qu'ils font, parce qu'il explique le droit chemin. Il dit que qu'est-ce qu'il y a à voir avec le droit chemin? Ça peut être intérieur, ça peut être extérieur. Et dans les choses qui sont extérieures, ça peut être parmi les adorations, ça peut être parmi les adat. Donc si toi tu émets tes kuffars dans des choses qui ont rapport avec leur voix, soit dans les adorations, ou soit dans les traditions ou les coutumes ou les habitudes qu'ils ont, eh bien ça rentre dans l'imitation des kuffars aussi. Et c'est bien d'être capable de comprendre dans quoi exactement c'est interdit de les imiter dans ces choses-là. Parce qu'il y en a qui prennent la règle générale, comme par exemple de dire, si ça fait partie des adorations, donc dans ce cas-là, tout est interdit, sauf qu'est-ce qui est prouvé par la charia de le faire. C'est-à-dire tu ne peux pas rien faire comme adoration, sauf qu'est-ce qui est supporté par des preuves du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est une règle qui est vraie. Et également, ils disent, également dans la dunya, tout est permis, sauf s'il y a une preuve pour l'interdire. Ça, c'est dans les affaires de la dunya. D'accord? Mais il y en a qui ne comprennent pas qu'il y a des affaires qui font partie des affaires de la dunya, mais au sujet desquelles le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné quelque chose. Il a donné des règles ou des choses qu'il faut faire ou pas faire par rapport à ces éléments-là qui font partie de la dunya. Donc, dans ces affaires-là, tu ne peux pas, toi, ramener quelque chose d'autre que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Hein? Même si c'est des affaires qui ont rapport avec de la dunya. Donc, ça, c'est des fois des choses que certains, parmi les gens de bid'a, ils jouent avec ça. Ils jouent avec ça. Comme par exemple, comme on a dit, les affaires de la politique. Il y a des éléments de qu'est-ce que les koufars font dans la politique qui sont en contradiction avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux ils vont dire par exemple, oh mais la politique ça n'a pas rapport avec la religion, c'est des affaires de la dunya, sauf que c'est des éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié de la dunya et il nous a donné des règles à suivre dans ces éléments là donc de contredire les éléments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans ces choses là eh bien c'est en contradiction avec l'islam dans ce cas-là. Donc Cheikh Al-Fawzan il va clarifier ça un petit peu plus. Il dit wa qawluhu qad takunu ibadat wa qad takunu adat, يعني ان الغرض من بيان الصراط المستقيم هو ما كان في امر العبادات اما ما كان في العادات فهو من المباحات والمباح هو ما تساوى طرفاه فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثال ذلك المشي والنوم والركوب ولبس الثياب وأكل الطعام والشراب بشرط أن تكون هذه الأمور داخلة في حدود المباحات وأن لا يكون فيها إسراف وتبذير. Donc le cheikh il dit, ça se peut que les éléments de qu'est-ce qu'il y a à faire avec le droit chemin fassent partie des adorations ou bien des affaires de la dunya, des choses qui sont des habitudes. Hein. Et il dit, le cheikh, que qu'est-ce qu'on doit comprendre ici, c'est que l'explication du droit chemin, c'est ce qui a rapport avec les affaires qui ont rapport avec l'adoration. Mais en ce qui concerne les habitudes, les affaires de la dunya. Donc ça, c'est des choses qui sont à la base mubah, c'est-à-dire qui sont permises. Hein? C'est-à-dire que si tu le fais, tu vas pas être récompensé. Puis si tu le fais pas, tu vas pas être puni. Yani les deux côtés, c'est égal. Si tu le fais, tu vas pas être puni. Et si tu le fais pas, tu vas pas être tu vas pas être récompensé. Ou si tu le fais pas, tu vas pas être puni, tu vas pas être récompensé non plus. ومثال ذلك المشي والنوم والركوب ولبس الثياب وأكل الطعام والشراب بشرط أن تكون هذه الأمور داخلة في حدود المباحات وأن لا يكون فيها إسراف وتبذير. Donc il dit à condition, bien sûr, parce qu'il y a toujours des conditions et c'est ça que j'expliquais, à condition que ces choses-là fassent partie des choses permises et yani que ça également à condition que ça rentre pas dans le gaspillage et dans l'extravagance. Comme par exemple, yani les choses qui ont rapport avec le fait de marcher, de dormir, de monter sur les yani comment monter la voiture ou bien les sortes de moyens de transport ou bien les vêtements et des choses de ce genre. Et le cheikh, il va expliquer ça de toute façon en détail par la suite. Il dit وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينها بينهما ارتباط ومناسبة فإنما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. Ça c'est un point. Là le cheikh il commence à rentrer dans des affaires un peu plus deep et un peu plus yani dans les affaires qui ont rapport ou qui ont un attrait psychologique aussi. Donc il dit le cheikh qu'il y a des affaires de la religion, des affaires de l'islam et du droit chemin, comme on a dit, parmi les affaires qui sont intérieures ou les affaires qui sont apparentes, ils ont des liens entre elles, hein, et des choses qui les relient. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur sont reliés ensemble d'une certaine façon. Et donc, qu'est-ce qui est dans le cœur comme sentiment et comme état, ça oblige certaines choses dans l'apparence aussi, dans qu'est-ce qui est apparent. C'est-à-dire que ça va aussi avoir des effets sur notre apparence extérieure. Et il y a des choses qui sont en apparence que tu fais extérieurement comme action, qui vont avoir des effets sur tes sentiments et sur ton cœur et sur ton état intérieur. Donc il y a un lien entre les deux. Ok? Et le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça dans le passage 79. Il dit المراد من هذا الكلام أن أعمال القلب وأعمال الجوارح مترابطة. Il y a un lien entre les deux. Les actions il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par cette parole de Ibn Taymiyyah? C'est que les actions du cœur et les actions du corps sont interreliées. Tu peux pas les dissocier. Ils sont reliés les deux ensemble. فما يكون في القلب من النيات والمقاصد والهموم يظهر على الجوارح. Donc, qu'est-ce qui est dans le cœur comme intention, comme objectif, comme sentiment ou comme yani souci ou tracas, eh bien ça apparaît sur l'extérieur, sur le corps, yani en général, hein. Wa fal jawarih tataharrak taba'an lima fihi, c'est-à-dire que le corps il va bouger, il va agir selon qu'est-ce qui est dans le cœur. Et c'est qu'est-ce que tu as comme intention qui va faire en sorte que ton corps va bouger par la suite vers les choses que tu veux faire. Hein? Comme par exemple, tu dis, ah, là j'ai faim. La faim, tu l'as. Est-ce que c'est quelque chose qui est intérieur ou extérieur? C'est intérieur. Quand tu as faim, c'est en dedans que tu as faim. C'est ton ventre qui le sent en premier. Puis ça après, tu vas dire, ah, j'ai faim, je vais aller manger. Puis c'est là que tu vas te lever ou que tu vas tu vas bouger pour aller remplir ce besoin que tu as à l'intérieur de manger Donc tu vas soit aller préparer quelque chose, soit tu vas aller au dehors au restaurant manger, ou bien soit tu vas aller quelque part où tu vas trouver de la nourriture. Hein? Donc l'intérieur, il a un lien avec l'extérieur. Hein? Les besoins ou non, les besoins ou les choses que tu as intérieurement, ça va avoir un effet à l'extérieur. Et il dit فالجوارح تتحرك تبعا لما فيه وما يدور في القلب من الافكار والعكس كذلك. Donc il dit le contraire, c'est vrai aussi. Les choses que tu as à l'extérieur, ça va avoir un effet. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi, ça va avoir un effet aussi sur ton état intérieur aussi par la suite. Donc il dit le cheikh, فالقلب يتأثر بما يكون من فعل الجوارح من الحركات والذهاب والمجيء والأخذ والعطاء. فالقلب يتأثر بأعمال الجوارح والجوارح تتأثر بأعمال القلب فبينهما تلازم وارتباط وثيق. Donc les choses que tu fais à l'extérieur, ça a un effet sur ton corps, le fait d'aller, revenir, de prendre, de donner, et ainsi de suite. Les relations que tu as avec l'extérieur, ça a un effet sur ton corps, sur ton cœur. Et les choses qui ont rapport avec ton cœur, elles ont un effet sur le corps et le corps sur le cœur, et ainsi de suite. Il y a un lien entre les deux. Après, le cheikh, il dit, et il y a une raison pourquoi le cheikh, il dit ça maintenant. Donc, il va l'expliquer après. Il dit, وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحِكْمَةِ التي هي سنته. هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه الله. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la sagesse, et cette sagesse, c'est sa sunna, qui est en réalité la législation et la voie que Allah a légiféré de suivre. Le cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage, qui est le passage numéro 70. Il dit, يفهم من هذه العبارة أنه لما كانت أعمال القلوب مرتبطة بأعمال الجوارح والعكس صحيح كان هذا ردا على الذين يعملون المعاصي والسيئات ويقولون الدين في القلب ويقصدون بذلك أن عمل الجوارح لا يدل على شيء ولأن الدين في القلب وربما يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم لا شك أن القلب هو الأصل وعليه المدار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولكن الرد على أولئك القوم أن الذي في القلب يظهر على الجوارح ففساد العمل صلاحه وصلاحه ناشئ عن فساد القلب أو صلاحه فالقلب هو المسلك والجوارح الجنود فإن طاب الملك طابت الجنود فإن القلب هو الملك والجوارح الجنود فإن طاب الملك طابت الجنود. Donc le cheikh, il explique, il dit que, qu'est-ce qu'on veut dire par cette expression? C'est que, étant donné que les actions du cœur sont reliées aux actions du corps, et vice-versa, c'est-à-dire que les actions du corps sont reliées avec les actions du cœur aussi, hein? Donc les deux sont vrais. Et ça réfute ceux qui font des péchés et des désobéissances d'Allah, puis qui disent... La foi c'est dans le cœur, ou la religion c'est dans le cœur. Hein? Et ils veulent dire par là que les actions que je fais avec mon corps, de péché puis de désobéissance, ça ne veut pas dire que dans mon cœur j'ai pas la religion ou que je suis pas bon. Hein? Donc le cheikh il dit, peut-être même qu'ils vont essayer de se baser sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit At-taqwa ha-huna. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la piété c'est ici. Et il a pointé vers le cœur. Donc, s'il a pointé vers son cœur et il a dit « At-taqwa ha-huna », le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que la base de la foi, c'est le cœur. C'est vrai. À la base, la foi, elle est dans le cœur. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, dans le corps, il y a quelque chose, il y a un morceau. Hein? S'il est bon, le reste du camp sera bon. Et s'il est mauvais, le reste sera mauvais. Hein? S'il est bon, le reste du camp sera bon. Mais s'il est corrompu, le reste sera corrompu, et c'est le cœur. Donc, on peut réfuter ces gens-là en leur disant que qu'est-ce qui est dans le cœur, ça apparaît sur le corps. Et donc, si les actions de la personne sont corrompues, eh bien, ça veut dire que son cœur est corrompu. Et si ses actions sont bonnes, ça veut dire que son cœur est bon. Et donc, le cœur, par rapport au corps, c'est comme le roi. Puis les membres et les actions, c'est comme son armée. Donc, si le cœur est bon, l'armée sera bonne. Mais si le cœur est mauvais, l'armée sera mauvaise. Et ça, c'est comme par exemple l'autre personne l'autre jour, quand je lui ai dit, parce qu'il m'a montré la photo du soldat, du policier saoudien qui était à la Mecque, qui surveille les gens qui font le tawaf autour de la Kaaba. Lui, il est accroché comme ça, il surveille les gens, puis il avait son pied à côté sur la Kaaba. Donc lui et ses semblables parmi les soufis, les gens de l'égarement, ils montrent cette photo pour essayer de montrer leur indignation du fait que, oh regardez comment quelqu'un met son soulier sur la Kaaba. Hein? Alors qu'on sait très bien que ce policier, il ne fait pas ça pour manquer de respect envers la Kaaba, au contraire. Hein? Il est là pour protéger la Kaaba, pour défendre la Kaaba contre les gens qui veulent faire des égarements, des innovations ou des formes d'exagération par rapport à la Kaaba. Donc il est là pour honorer la Kaaba, pas pour la dénigrer ou pour lui manquer de respect. Mais les gens ignorants comme ces gens-là, ils essaient toujours de créer des choubouhats pour critiquer, alors qu'ils n'ont pas de preuves. Et j'ai dit de toute façon, cet homme-là, il n'est pas un homme religieux. Il fait son travail, c'est un soldat, il est là, il fait son travail. Et la preuve, j'ai dit, regarde, il n'a même pas de barbe. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est religieux, qui s'accroche à la sunna et qui fait partie des ulama. Donc quand j'ai dit ça, il a dit, non, la barbe, ça n'a rien à voir. La foi, c'est dans le cœur. J'ai dit, si tu dis dans ce cas-là que la barbe, ça n'a pas rapport avec la foi et que ça, c'est dans le cœur, j'ai dit, c'est faux, puisque là, on sait très bien que la barbe, ça fait partie de l'exemple des prophètes. Et de suivre l'exemple des prophètes, ça fait partie de la religion. Il m'a dit, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas de barbe. Ça veut dire, la barbe, ça ne pousse pas chez eux. J'ai dit, si quelqu'un, il n'a pas de barbe, parce que Allah lui en a pas donné une, eh bien, dans ce cas-là, il n'a pas de péché de ne pas en avoir une, parce que ce n'est pas lui qui a rasé ça. Mais tandis que celui qui a une barbe, mais qui la rase, lui, il commet un péché parce qu'il désobéit l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit de la laisser pousser. Et là, après, je lui ai dit, et de toute façon, si toi tu dis que la religion c'est dans le cœur, alors dans ce cas-là, pourquoi tu critiques l'autre d'avoir mis son pied sur la Kaaba? Puisque tu dis que la religion c'est dans le cœur, donc ça veut dire que la religion c'est dans le cœur, c'est pas dans son pied. Hein? Donc j'ai dit, dans ce cas-là, j'ai dit d'après ce que tu dis là, ça ne devrait pas être un problème avec lui, puisque tu dis que ses actions ne font pas partie de la foi. Donc tu vois la contradiction de ces gens-là. Regardez comment ils jouent. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il a expliqué, comme cheikh Al-Fawzan il l'a dit, que l'action que tu fais, il a un lien avec ton cœur, et tu ne peux pas nier qu'il y a un lien entre les deux. Et on va terminer donc avec la suite de qu'est-ce que le cheikh explique ici. Un point très important, il dit فكان من هذه الحكمة أن شرع الله من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور منها أن المشاركة بالهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المشابهين يقود إلى الموافقة لما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. سبحان الله. Qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique ici? C'est très très important. Donc, j'ai besoin de votre attention là, pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'il dit. Cheikh al-Islam, il dit, et donc parmi les exemples de cette sagesse qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a légiféré dans la religion de l'Islam des actions et des paroles par lesquelles on peut se distinguer des gens qui ont encouru la colère d'Allah et des égarés, c'est-à-dire qu'il peut nous distinguer des juifs et des chrétiens. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de contredire les juifs et les chrétiens dans l'apparence extérieure, même si ce n'est pas toujours apparent pour beaucoup d'entre les gens, yani, le mal qu'il y a dans la ressemblance de ces gens-là dans ces affaires-là. Et beaucoup de gens, ils ne vont pas nécessairement voir le mal qu'il y a là-dedans. Il dit, parmi ces exemples-là, les exemples de cette sagesse, il dit, tu peux voir que parfois, le fait que tu aies une ressemblance dans l'apparence extérieure avec quelqu'un, et que tu sois, que tu ressembles à des gens, ça amène en toi un genre d'appartenance. Le fait que tu ressembles à quelqu'un dans son apparence extérieure, ça crée en toi un genre d'appartenance, et ça crée entre les deux personnes qui se ressemblent des liens d'appartenance entre les deux et de ressemblance qui les amènent à être en accord entre eux dans le comportement et dans les actions par la suite. Et Cheikh, il dit, ça c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de concret et de palpable, parce que la personne par exemple qui va porter les vêtements des hommes de science et des savants par exemple, il va trouver en lui-même une certaine appartenance aux hommes de science. C'est-à-dire, même s'il ne fait pas partie des hommes de science, le fait qu'il s'habille comme eux, il ressent en lui-même qu'il a un lien d'appartenance avec eux. Le moment qu'il met les vêtements comme les savants, il sent qu'il y a un lien avec eux, même s'il ne fait pas partie d'eux. Et même les gens qui le voient, peut-être même vont penser qu'il fait partie des savants, même s'il ne fait pas partie des savants. Il dit la même chose pour les soldats. Si quelqu'un porte les mêmes vêtements que les soldats de l'armée, il va ressentir en lui-même un certain caractère et il va adopter des comportements semblables aux soldats et aux combattants. Hein? Et sa nature, hein, il va s'adapter en accord avec leur exemple et leur comportement, excepté s'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Et c'est pour ça que l'islam nous interdit d'imiter les koufars. Parce que même si tu ne fais pas partie des koufars, du fait que tu les imites, tu développes un comportement comme eux. Hein? Si quelqu'un va s'habiller, par exemple, comme un punk, hein, ou comme un rapper, un gars qui fait du rap dans le hip-hop, ou des choses comme ça, qui s'habille comme les vedettes de rap, ou des choses comme ça, ou qui s'habille comme, je sais pas moi, un skinhead, ou qui prend le même style qu'eux, ou qui s'habille comme un rabbin juif, ou comme un prêtre chrétien, ou bien comme des gens comme ça qui s'assimilent ou qui essaient de ressembler à ces gens-là ou à ces peuples-là, eh bien ça va créer en lui une appartenance, quelque chose d'intime, une intimité, un lien entre les deux. Puis Cheikh Ibn Taymiyyah va le mentionner ça plus tard. Il va donner comme exemple que si par exemple tu t'en vas en voyage loin de ton pays d'origine, puis que tu rencontres des gens qui sont habillés exactement comme toi, tu vas ressentir un lien de commun avec la personne automatiquement, hein? Même si tu la connais pas, tu sens que cette personne là est habillée comme moi, donc on a quelque chose en commun. Peut-être même vous allez vous parler entre vous, vous allez vous retrouver et vous allez vous voir, vous allez dire, Yani, tu viens de la même place que moi? Oui. Hein, t'es habillé comme moi? Oui, on est pareil. Hein? Ah, ça veut dire, donc tu viens de quelle place? Ah, moi je viens de telle place. Ah, ok, moi aussi, ah. Tu vois, tu ressens des choses en commun, tu te rattaches avec la personne. C'est pour ça que c'est important, hein, de pas imiter justement les peuples parmi les kuffar et les mouchriquins. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Donc on va lire cette explication-là de ce passage, puis on va s'arrêter après, puis on va laisser la suite pour le prochain cours. Inch'Allah. Donc, subhanallah. Il dit: المقصود أن الله بعث نبيه بالحكمة التي هي سنته، وكان من هذه الحكمة مخالفة سبيل المغضوب عليهم والضالين، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالكتاب المنزل هو القرآن، والحكمة هي السنة، وهي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال وأقوال وتقريرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه وهي السنة النبوية، فهي الوحي الثاني بعد القرآن. قال الله عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé son prophète avec la sagesse, et la sagesse en question c'est sa sunna. Parce que yani, il dit, il y a dans le fait de contredire cette sunna, hein, cette sagesse, une ressemblance avec ceux qui ont encouru la colère d'Allah et avec les égarés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 2 dans surat al-Jumu'ah, c'est lui qui a envoyé chez vous, hein, chez les Ummiyin, les gens qui n'ont pas reçu de livre, un messager parmi eux qui récite pour eux ces versets et qui, hein, vous purifie, qui les purifie et qui leur enseigne les livres et la sagesse. Et dans l'autre verset, le verset 113 dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: et Allah a envoyé sur toi le livre et la sagesse, et il t'a appris ce que tu ne savais pas. 113. Donc dans ce verset, le cheikh il dit, ça c'est la preuve que le Coran il est révélé, c'est la révélation d'Allah, et également la sagesse est révélée, et c'est la sunna, et c'est ce qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme action et comme parole et comme approbation. Les deux, le verset 2 dans Surat Al-Jumu'ah et le verset 113 Surat An-Nisa, ces deux versets-là mentionnent que Allah a révélé le livre et la sagesse. Et le livre, c'est le Coran, et la sagesse, c'est la Sunna. D'accord? Et il dit le Cheikh ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu le Coran et quelque chose de semblable avec. Et ça, c'est la Sunna. Donc, la sunna, c'est la deuxième révélation après le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et yani, il ne parle pas selon la passion ou sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. C'est le verset 3 et 4 dans Surat An-Najm. 3 et 4 dans Surat An-Najm. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui est révélée. Et dans l'autre verset, le verset 7 dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ensuite, le Cheikh, verset 7 dans Surat Al-Hashr, l'Exode. Après, le Cheikh, il dit قوله فأمر بمخالفتهم أي أن الحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالكفار في هديهم الظاهر قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال لا تشبهوا باليهود ولا النصارى وهذا لا شك أن له حكمة عظيمة فإن مخالفتهم في الظاهر تدل على مخالفتهم في الباطن والعكس كذلك فمشابهتهم في الظاهر تدل على محبتهم في الباطن فالتشبه له ارتباط وثيق بما في القلب من محبتهم أو من تعظيمهم فما تشبه المتشبه بهم إلا لأنه يرى فيهم الكمال والقدوة الحسنة له. Donc le Cheikh il dit, quand Ibn Taymiyyah dit, donc il nous a ordonné de les contredire, c'est-à-dire que parmi les éléments de la sagesse, c'est-à-dire de la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de ressembler aux kuffars dans leur apparence extérieure. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Abu Daoud, selon Ibn Omar, il a dit من تشبه بقوم فهو منهم, c'est-à-dire celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Donc ça c'est un hadith. Puis il y a un autre hadith aussi dans lequel il dit ne ressemblez pas ou n'imitez pas al-Yahoud wa al-Nasara, n'imitez pas les Yahoud et les Nasara. Il dit il n'y a pas de doute que Al-Nasara c'est les chrétiens et Al-Yahoud c'est les juifs. Donc il dit ça, il n'y a pas de doute qu'il y a dans ça une grande sagesse, parce que dans le fait de contredire les juifs et les chrétiens dans l'apparence extérieure, ça indique que tu les contredis également dans qu'est-ce qui est intérieur aussi. Et le contraire est vrai également, que si tu leur ressembles dans leur apparence extérieure, ça prouve que tu les aimes à l'intérieur, intérieurement. Hein? Parce que la ressemblance, ça prouve qu'il y a un lien profond dans le cœur et un amour, hein, profond. Ou bien que tu les respectes et que tu les vénères ou que tu les respectes, tu as un grand estime pour eux. Parce que il dit le Cheikh, فَمَا تَشَبَّهَ الْمُتَشَبِّهُ بِهِمْ إِلَّا لِأَنَّهُ يَرَى فِيهِمُ الْكَمَالُ وَالْقُدْوَةِ الْحَسَنَةِ لَهُ. Donc, la personne qui ressemble à une autre personne et qui imite une autre personne, elle l'imite uniquement parce qu'elle considère qu'il y a en eux un exemple de perfection ou un modèle de bien pour elle dans cette personne ou dans cet exemple qu'elle suit ou qu'elle imite. Et donc le Cheikh il dit وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ تَعْظِيمٌ لِمَنْ أَمَرَ اللَّهُ بِتَصْغِيرِهِمْ وحب لمن أمر الله ببغضهم فالواجب الحذر من ذلك لأن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا إلى آخره. Donc le Cheikh il dit, et ça c'est, hein, quand tu imites un peuple dans leur apparence extérieure, c'est comme il l'a dit, c'est comme si tu crois que ou tu considères que eux ils sont l'exemple correct à suivre ou l'exemple parfait à suivre. Et ça indique quoi? Ça indique que tu as du respect pour ce que Allah t'a ordonné de dénigrer. Et que tu as de l'amour pour ce que Allah t'a ordonné de détester. Et l'obligation à ce sujet-là, c'est d'être sur nos gardes. Parce que le fait de ressembler et de participer avec quelqu'un ou avec un peuple dans leur apparence extérieure, ça fait en sorte que tu vas hériter d'une complicité avec eux et que tu vas avoir un genre d'appartenance à eux, hein? jusqu'à la suite de ce que Ibn Taymiyyah a dit par la suite. Donc il dit يعني هذه هي الحكمة في النهي عن التشبه باليهود والنصارى وأمثالهم من الكفرة. C'est-à-dire, voilà, la, il dit le cheikh, c'est-à-dire, voici la, la sagesse dans l'interdiction de ressembler aux juifs et aux chrétiens et à ceux parmi eux qui leur ressemblent, parmi les kuffars. وهو أن التشبه بهم في الهدي الظاهر يدل على شعور في الباطن نحوهم أو نحوهم بالتعظيم والاحترام والتوقير. Donc c'est-à-dire de ressembler à ces kuffars dans l'apparence extérieure, ça indique que intérieurement tu as des sentiments envers eux de respect et de yani, que tu les respectes, que tu les vénères, ou bien que tu as un certain, une certaine complaisance, une certaine complicité hein, envers eux. Et il dit, لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَظِّمْهُمْ لَمْ يَرَى أَنَّهُمْ أَهْلُ كَمَالٍ كَمَا تَشَبَّهَ وَلَمَا تَشَبَّهَ بِهِمْ. Donc si tu considérais, yani, si tu les respectais pas, ces kuffars, si tu les respectais pas, et si tu les considérais pas comme étant des gens qui ont un exemple parfait à suivre, hein, ou que tu les respectais pas, tu n'aurais pas voulu leur ressembler. Quand tu ressembles à un peuple, tu imites quelqu'un, c'est parce que tu as du respect pour cette personne. C'est pas possible. Tu vas voir par exemple n'importe qui imite une vedette, qui imite un acteur ou un chanteur ou un acteur, il y en a peu importe qui là, il imite. Il l'imite pourquoi? Parce qu'il a de l'estime pour cet acteur. Il veut être comme lui. Hein? Et la même chose pour yani, ceux qui imitent les koufars. Il les imite pourquoi? Il imite les Américains. Il imite les Européens. Yani, les chrétiens, les juifs et les athées parmi les koufars. Il veut s'habiller comme eux. Il veut mettre un veston, une cravate. Il veut raser sa barbe et laisser une moustache, ou raser la moustache et la barbe. Et il veut parler comme eux, avoir le même accent que eux, avoir le même look que eux. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est ça le vrai, yani, le meilleur exemple à suivre, c'est ça la meilleure façon de vivre, la meilleure façon d'agir. Hein? Il y a plein de jeunes et de vieux dans les pays arabes, dans les pays non arabes, parmi les pays musulmans, hein, que ce soit en Afrique ou en Asie ou ailleurs, qui yani, ont un respect et qui vénèrent tout ce qui a rapport avec l'Occident. Même parmi les koufars, parmi eux, même les koufars en Afrique et en Asie, parmi eux, il y en a qui, tellement ils ont un respect pour les koufars de l'Europe, qu'ils vont même parfois faire des opérations chirurgicales et des chirurgies plastiques pour essayer même de changer leur apparence physique, de transformer la création d'Allah pour essayer de leur ressembler. Il y en a qui vont même se faire blanchir la peau s'ils sont noirs pour essayer de ressembler à des Européens ou des Nord-Américains. Il y en a d'autres qui vont, parmi les Asiatiques, même se faire chirurgie dans les yeux pour plus avoir les yeux plissés pour ressembler à des Européens et des Occidentaux, hein, avoir les yeux ronds au lieu d'avoir les yeux plissés. Et plein d'autres exemples comme ça, qui vont changer leur nez, par exemple, hein? Les Noirs africains ou des Antilles, hein, tu les vois, les Noirs américains aussi, font des opérations pour avoir un nez fin, pas avoir un nez plat. Hein? Ou des exemples comme ça. Tout ça, c'est des exemples du changement de la création d'Allah. Et ça, c'est des choses graves quand ça arrive à ce point-là. Hein? Donc, que dire de ça? Et il y a aussi donc l'imitation dans ces exemples-là, puis il y a l'imitation aussi dans la façon de s'habiller, dans la mode. Combien de fois tu rencontres par exemple des jeunes parmi les musulmans qui viennent de pays d'origine de pays musulmans, leurs parents viennent de ces pays-là, eux ils sont peut-être nés ici, parce que là maintenant à Montréal on voit commencer à apparaître la deuxième génération, des jeunes qui sont nés de parents qui sont venus habiter ici. Avant, c'était que la plupart, c'était que des premières générations, des immigrants. Là, maintenant, on voit, c'est-à-dire la deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de ces immigrants-là commencent à grandir, même peut-être il y a quelques troisième génération aussi, mais bon, en tout cas, ils sont pas très très nombreux, mais il y en a. Puis c'est pas comme en Europe, il y a déjà même peut-être 4 ou 5 ou même plusieurs générations comme ça. Et tu vois, et allez, pour eux, c'est comme si tu t'habilles comme les musulmans s'habillent dans les pays musulmans, c'est-à-dire t'es retardé, t'es pas évolué, t'es comme à la limite, yani t'es une personne qui est pas moderne, hein, t'as pas compris pourquoi tu t'habilles comme ça, hein, pourquoi tu t'habilles comme dans les pays sous-développés. Non, mais c'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui pensent que, yani, si tu es musulman, c'est vrai que tu n'es pas obligé de t'habiller d'une façon, comme par exemple porter un kamis ou porter un vêtement traditionnel, tu n'es pas obligé de porter ça. Mais en même temps, tu n'as pas le droit de t'habiller d'une manière, yani, pour imiter les koufars, les mouchriquins, et comme si quand on va te voir de l'extérieur, il n'y a rien qui va te distinguer d'eux. Hein? Donc il faut te distinguer, il faut qu'il y ait quelque chose que quand on te voit, on puisse savoir que tu es musulman, d'accord? Et ça c'est très important. Donc, le fait de dire « Ah, il n'y a pas un vêtement spécifique qu'on doit porter dans l'islam », c'est vrai, il n'y a pas un vêtement spécifique. Mais en même temps, il y a des choses que tu dois porter, il faut te distinguer des koufars et des mouchriquins dans les règles de qu'est-ce que l'islam nous a enseigné de porter. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Al-Fawzan, il dit فَالتَّشَبُّخْ بِاللِّبَاسِ فِيهِ السِّرْ. Le cheikh il dit que dans l'apparence, dans les vêtements, le fait que tu imites un peuple dans la façon de s'habiller, il y a un secret là-dedans. Hein? Il y a un secret. Il dit وَهُوَ أَنَّ التَّشَبُّخْ يُشْعِرْ بِنَوْعِ قُرْبٍ وَانْتِمَاءٍ لِمَنْ تَشَبَّهَ. C'est-à-dire que quand tu vas porter les vêtements d'un autre peuple, eh bien, ça veut dire qu'en même temps, en ayant cette ressemblance-là avec ces gens-là, eh bien, il y a un genre de rapprochement qui se crée. Il se crée un genre de rapprochement et d'appartenance et de complicité avec celui que tu imites dans sa façon de s'habiller. D'accord ? Et même les koufars, quand ils te voient habillés avec le kamis, c'est comme si il y a comme automatiquement, il n'y a pas juste une barrière, c'est comme si psychologiquement dit à ce gars-là ou cette femme-là qui porte le djilbab, elle n'a rien à voir avec moi, elle n'a rien à voir avec ma culture, elle n'a rien à voir avec ma tradition, elle n'a rien à voir avec ma religion. C'est psychologique, tout de suite la personne comprend ça. Et il y en a même des gens parmi les musulmans qui sont égarés, parmi les Ikhwan, qui disent justement il ne faut pas qu'il y ait cette barrière-là. Eux, ils veulent la détruire, cette barrière, pour qu'il y ait un amour, puis un attachement, une alliance entre les koufars et les mu'minines. Alors que Allah nous ordonne qu'il y ait cette barrière. Mais cette barrière dans le sens de faire en sorte que la vérité et le faux soient de plus en plus clairs et faciles à distinguer. Pas dans le but de dire on est d'un côté, puis on laisse les koufars et les mouchriquins dans leur shirk et dans leur égarement, puis on vit dans notre monde. Non, c'est dans le sens qu'on se distingue d'eux et on met cette barrière entre nous et eux pour faire en sorte que la vérité soit plus claire, hein, et distincte de ce qui est faux, puis en même temps pour les appeler à l'islam, pour qu'ils voient la différence plus clairement, pour que lorsqu'ils vont accepter l'islam, ils savent tout de suite la différence entre l'islam et le kufr et le shirk. Donc le cheikh, il dit, quand tu imites un peuple, eh bien, ça crée cette complicité, cette appartenance. Et donc, il dit, فَمَنْ لَبِسَ لِبَاسَ الْعُلَمَا صَارَ فِي نَفْسِهِ حُبٌّ لِلْعُلَمَا وَانْتِمَاءٌ إِلَيْهِمْ وَمَنْ لَبِسَ لِبَاسَ الْجُنُودِ صَارَ فِي نَفْسِهِ شُعُورٌ نَحْوَ الْجُنْدِيَّةِ وَالْعَسْكَرِيَّةِ وَكَذَا كُلُّ قَوْمٍ لَبِسَ لِبَاسٍ مُعَيَّنٍ كما هي العادات فإنك تجد رابطة بينهم. Ça me fait rire parce que je pense à il y a un comédien une fois qui mentionnait un exemple comme ça. Il disait une femme par exemple, elle s'habille dans la rue comme une prostituée, c'est-à-dire avec des vêtements qui laisse paraître les parties de son corps puis ses atours. Hein, on voit clairement la forme de sa poitrine, ses fesses, ses cuisses, toutes les formes du corps que l'homme qui attire l'homme, que l'homme aime regarder en général, eh bien, elle les expose et elle les met en valeur, puis elle les expose publiquement devant tout le monde dans la rue pour que tout le monde le voit. Les femmes qui agissaient comme ça dans le passé, c'était souvent les femmes qui voulaient attirer des clients parmi les prostituées, justement. Parce qu'elle sait que si elle couvre ses atours, elle ne pourra pas attirer de clients. Donc, elle est obligée de les exposer, puis de les mettre en valeur, puis de les montrer pour attirer le plus de clients possible. Hein? Donc ça, c'est l'attitude de la prostituée. Et pour des femmes, par exemple, qui agissent comme ça, maintenant, parmi les femmes fortes dans la rue, et même parfois certaines femmes musulmanes, Allah musta'an, elles disent, c'est pas parce que tu me vois habillée comme ça que tu dois penser que je suis comme une femme prostituée ou que tu ne dois pas me respecter. Alors ce comédien-là, il a répondu, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, ok, peut-être que tu dis que tu n'es pas une prostituée, mais tu peux pas nier que tu ressembles à une. Il dit, si par exemple, on donne comme un exemple que je m'habille en policier et que je marche dans la rue avec l'uniforme des policiers et que quelqu'un vient dans la rue, vient me parler, dit, officier, venez m'aider, il y a quelqu'un là-bas, il a pris mon sac, il a pris mes affaires, venez, allez l'arrêter. Et là tu dis à ce policier, tu dis à cette personne, c'est pas parce que tu me vois habillé comme un policier que ça veut dire que je dois agir ou être comme un policier. Hein? Donc il a donné cet exemple-là pour essayer de montrer que parfois, si tu t'habilles d'une façon, c'est comme si tu donnais un message à ceux qui te voient. Et même si tu prétends pas l'être, qu'est-ce que tu montres, les gens, eux, le signal que tu donnes, ils vont pas nécessairement faire la distinction entre ce que tu montres comme image et ce que tu es réellement. Et c'est pour ça que les gens, dans ce cas-là, ils doivent s'éloigner des mauvais exemples et prendre l'apparence de ceux qui suivent le bien et s'habiller comme les gens du bien, comme les femmes par exemple, de s'habiller avec des vêtements amples qui couvrent toutes les atours et les formes de leur corps qui attirent les hommes pour éviter justement de se faire solliciter pour des services sexuels ou bien pour se faire draguer, comme le font les prostituées lorsqu'elles se mettent en apparence, en valeur pour essayer d'attirer des clients potentiels. Donc ça c'est un exemple. Et le cher, c'est ce qu'il dit, il dit, celui qui porte les vêtements des ulama, qui s'habille comme les savants de l'islam, ben il va automatiquement développer un amour pour les savants, une appartenance avec les savants. La même chose aussi pour celui qui porte les vêtements des soldats et des guerriers, il va avoir ce sentiment d'appartenance à qu'est-ce qui a à voir avec l'armée et la guerre, et les guerriers. Donc il dit, « وَكَذَا كُلُّ قَوْمٍ لَهُمْ لِبَاسٍ مُعَيَّنٍ كما هي العادات فانك تجد رابطه بينهم. يعني tout peuple qui a une façon de s'habiller, une apparence dans ses coutumes, eh bien tu vas ressentir, si tu t'habilles comme eux, une appartenance et un lien avec ce peuple là il dit وهذا المثال يقاس عليه سائر انواع التشبه. Donc cet exemple là tu peux faire une analogie, une comparaison avec toutes les autres formes de ressemblance. Ça rentre là-dedans. Tu peux l'utiliser comme un exemple pour tout le reste. Il dit, فَمَا مِنْ أَحَدٍ يَتَشَبَّهُ بِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ لِبَاسِهِ أَوْ مِنْ كَلَامِهِ أَوْ مِنْ مَشْيَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ يَحْمِلُ فِي قَلْبِهِ لَهُ شُعُورًا خَاصًا حَمِلَهُ عَلَى التَّشَبُّهِ بِهِ. Donc il dit, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une personne qui imite une autre personne dans, soit dans sa façon de s'habiller, ou dans sa façon de parler, ou dans sa façon de marcher, ou d'autres choses, excepté qu'il y a quelque chose dans son cœur qui l'a poussé et qui l'a amené yani, à vouloir lui ressembler. C'est-à-dire que la personne, elle a un sentiment dans son cœur qui l'a amené à vouloir lui ressembler. Il dit « Wa fi hinin tajidu anna alladhi yanfuru min shakhsin yujafihi fi kulli shay'in wa yahrisu ala mukhalafatihi » Donc, le contraire, c'est vrai aussi. Le cheikh, il dit, le contraire, c'est vrai aussi. Il dit, si tu vois que quelqu'un, il s'enfuit de ressembler à quelqu'un, il veut tout faire pour ne pas ressembler à une personne, et il fait tout pour contredire quelqu'un dans son apparence extérieure, c'est parce que, il a un manque de respect, ou il ne respecte pas cette personne, ou il la déteste, ou il n'a pas d'estime, aucun respect, aucune estime, et il ne veut pas avoir aucun lien avec cette personne. Donc ça, c'est une vérité. Hein? Est-ce que tu veux ressembler à quelqu'un que tu méprises, ou que tu détestes? Donc ça, c'est un exemple que le cheikh donne. Ça, c'est quelque chose que les gens font, ça, c'est quelque chose, même c'est inconscient parfois. C'est-à-dire qu'ils veulent ressembler à un peuple sans même le réaliser. Ils ne se disent pas à eux-mêmes, « Ah, moi, je veux m'habiller comme ça pour ressembler au kuffar. » Mais en eux-mêmes, au fond de leur cœur, subconsciemment, c'est ça la réalité. Et le cheikh, il termine en disant, « وَالْحَاصِلُ أَنَّكَ تَجِدُ أَنَّ مَنْ يَتَشَبَّهْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْمٍ مِنَ الْكُفَّارِ تَجِدُهُ يَذُوبُ فِيهِمْ ويصير مثلهم حتى لا تكاد تميزه والأصل في المسلم أن تكون له شخصيته المستقلة. Donc qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan? Il dit والأصل في المسلم أن تكون له شخصيته المستقلة. Il dit, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tu trouves que si parmi les musulmans il y a quelqu'un qui imite un peuple parmi les kuffars, tu vas constater qu'il va fondre parmi eux et il va devenir exactement comme eux. À un point tel que tu ne pourras pas du tout le distinguer. Exactement. C'est comme des fois, comme tu dis, comme le frère dit, comme le musulman dit. Des fois, t'es dans la rue, tu marches. T'as ton kamis, t'as la barbe. Il y a des gens, ils te disent, salam alaikum. Alaikum salam. Allez, t'aurais jamais su que c'était des musulmans. Mais eux, ils t'ont reconnu. Pourquoi ils t'ont reconnu? Parce que t'as montré ton islam. Il y en a qui disent, la religion, c'est pas quelque chose qu'on doit montrer, c'est dans le cœur. Celui qui montre son appartenance à l'islam, c'est comme s'il veut faire du riya. Il veut faire son show-off, il veut se faire glorifier des gens. Non, ça au contraire, d'être fier de sa religion et de montrer son attachement et son appartenance à l'islam, c'est quelque chose qui fait partie des obligations du musulman. Ça fait partie des choses que Allah t'ordonne et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, t'ordonne de faire. Et c'est pas pour te vanter ou te montrer meilleur que les autres que tu montres ton islam. C'est pour mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être fier de ta foi et de te distinguer des kuffars et des mouchriquins. Donc ceux qui essaient de jouer avec cette attitude de dire « Oh non, moi je ne veux pas montrer ma foi, je ne veux pas montrer mon islam parce que je ne veux pas faire riya », en réalité, en agissant comme ça, c'est eux qui ont du riya dans leur cœur. Hein? Et c'est eux qui ont de l'hypocrisie en agissant comme ça parce qu'ils imitent les mouchriquins et les kuffars. Et donc, c'est la réalité, c'est ça. Tu les trouves, ces musulmans-là, ils commencent à fondre et à devenir comme des kuffars dans leur apparence et même dans leur comportement, et même dans leur attitude et même dans leur façon de vivre, de parler, de manger, de dormir, dans tout le reste par la suite. Donc, le cheikh, il dit, la base chez le musulman, c'est qu'il doit avoir sa propre personnalité indépendante et autonome. Il ne doit pas imiter les autres peuples parmi les mouchriquins et les kuffars. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera les explications au prochain cours. Le cheikh y rentre encore plus en détail hein, dans cet exemple-là. Juste pour vous dire, comme par exemple, tu vas dire, quand tu vas au marché, tu vas acheter des fruits. Il y a un cheikh qui avait donné cet exemple-là. Tu vas tu dis, c'est pas l'apparence qui compte, c'est l'intérieur. C'est pas les actions qui comptent, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur. Quand tu achètes un fruit, est-ce que tu vas acheter le fruit qui a plein de taches dessus, qui est toute sale, ou bien qui a toutes des morceaux, des signes de pourriture à l'intérieur? Non! Tu vas prendre le fruit qui est le plus beau, qui a la plus belle apparence extérieure, hein, sur la pelure, hein, et sur l'écorce, il y en a pour voir que, si dehors il est beau, en général, ça veut dire qu'en dedans, il est bon le fruit. Hein? Donc ça, c'est pour dire, il y a des cas où c'est vrai, tu vas dire, ah ben j'ai acheté ce fruit-là, il était beau à l'extérieur, mais en dedans, regarde, il était pas bon. Mais ça, c'est des exceptions. Hein? C'est vrai, mais en même temps, c'est une exception. Nous, on se base sur al-zahir, l'apparence. Et on ne juge que par l'apparence, parce que l'intérieur, c'est seulement Allah, subhanahu wa ta'ala, qui peut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on s'arrête ici, inshallah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين